Le mariage et la famille. Amour et mariage sont-ils indissociablement liés dans la mentalité musulmane ? Jusqu'à nos jours, la famille musulmane ne conçoit pas que les jeunes promis puissent se fréquenter assidûment avant de rendre publique leur union. L'idée sous-jacente est celle-ci : qui veut l'un doit aussi prendre l'autre. Aussi, les relations sexuelles, le mariage et le sexe sont-ils supposés aller de pair dans le monde musulman ? Le mariage dans l'islam est un contrat social avec une bénédiction divine. Sourate 25, 54. Il est fortement recommandé de faire une célébration de mariage, ce qui se produit la plupart du temps. Cependant, la condition religieuse cruciale est le contrat négocié par l'homme et le représentant masculin de la femme, signé en présence de deux témoins au minimum. Dans l'islam, le mariage ne doit pas être contracté en cachette. C'est un événement public. La fête donnée en l'honneur des mariés en fait un acte public. Même si les prémices du mariage ne reposent pas forcément sur de romantiques émois, l'amour est important dans le mariage. La sourate 30, 21, dit que le mariage est l'un des signes de la sollicitude de Dieu pour l'humanité et que Dieu a mis l'amour et la bonté entre le mari et l'épouse. Il est recommandé de se marier jeune, aux alentours de 20 ans. Étant donné que l'homme doit pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et que le monde moderne exige de longues années d'études avant de pouvoir exercer un métier à temps plein, la date du mariage est souvent repoussée de plusieurs années. L'islam sanctionne la polygamie. Certains penseurs musulmans modernistes disent que le Coran privilégie la monogamie, mais a néanmoins autorisé la polygamie pour tenir compte des conditions de vie de la première communauté musulmane. Le mari peut avoir jusqu'à 4 épouses, à condition de les traiter à égalité. Cette égalité de traitement concerne le soutien financier des épouses et non les sentiments. Un musulman qui vit dans un pays où la polygamie est interdite doit se conformer aux lois du pays où il vit. Certains pays musulmans restreignent, voire interdisent la polygamie, la Tunisie par exemple. Les femmes ne peuvent avoir qu'un seul mari, et de nos jours, la plupart des hommes musulmans n'ont qu'une seule épouse. Dans certains cas, l'épouse peut mettre dans le contrat de mariage une clause qui interdit au mari de prendre une autre épouse. L'adultère est l'un des crimes les plus graves. Le Coran mentionne une punition de 100 coups de fouet, sourate 24:2. Mais un hadith, tradition, préconise la mort par lapidation. Normalement, le hadith est considéré comme remplaçant ou même abrogeant la punition coranique. Dans l'un ou l'autre cas, des procédures de protection veillent à ce que l'on n'en arrive pas à cette extrémité. Au Nigeria, plusieurs tribunaux des régions du nord du pays ont appliqué la peine de mort par lapidation. Le chef de l'État, un musulman, est intervenu activement pour tenter d'empêcher cette interprétation faussée de la loi islamique. Une fausse accusation d'adultère est punie par 80 coups de fouet. Sourate 24, 4. Ce qui montre bien que, selon le Coran, ce type de calomnie est presque aussi mauvais que l'acte d'adultère lui-même. Le divorce, talak, selon un hadith bien connu, est la plus détestable des actions autorisées dans l'islam. Le Coran recommande la réconciliation avec l'aide d'arbitres. Sourate 4, 35. La procédure de divorce consiste fondamentalement à ce que le mari dise 3 fois d'affilée « Je divorce de toi ». Les 2 premières fois, le couple peut se réconcilier. L'épouse continue à vivre dans la maison conjugale, mari et épouse ensemble, et le mari continue à subvenir aux besoins de sa femme. Sourate 65, 1. Ensuite, la 3e fois, le divorce est prononcé comme étant définitif, et le couple ne peut plus revenir en arrière, à moins que la femme ait ensuite contracté un autre mariage, suivi d'un autre divorce, dans l'intervalle. Ces détails sont spécifiés dans la sourate 2, 228-232 et 236-237. Plus tard, la coutume a été prise d'accepter que le divorce soit prononcé dès que le mari a répété 3 fois d'affilée la formule du divorce. Talak, talak, talak. Ce divorce rapide est devenu légal, mais non recommandé, et a prêté à de nombreux abus de la part de certains maris. La législation moderne de certains pays musulmans veille à protéger l'épouse contre la pratique du divorce arbitraire. Il est difficile pour une épouse de divorcer. Les raisons qu'elle peut invoquer pour demander le divorce sont liées à la maltraitance, à la négligence ou au défaut de pension alimentaire, à l'impuissance du mari, à la débauche, à l'abandon, à la maladie chronique, à la folie ou à la conversion à une autre religion. En cas de divorce, normalement, la femme a le droit de garder sa dot. Le mari a l'obligation de subvenir aux besoins de sa femme. Sourate 4, 34. L'épouse est responsable du soin des enfants et de la gestion de la maison. Si elle accomplit ses fonctions, elle peut avoir un travail en dehors de la maison. Le revenu qu'elle retire de son travail est à elle et elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle n'est pas obligée de contribuer aux dépenses de base de la famille. Dans les pays où les femmes vivent recluses à la maison, confinées dans une partie de la maison où les hommes extérieurs à la famille ne les verront pas, comme l'ont imposé les talibans en Afghanistan, les opportunités d'emploi sont très limitées. Cependant, dans toute l'histoire musulmane et dans la majorité des pays musulmans, on constate que les femmes ont exercé toutes sortes de métiers. Malgré une volonté marquée d'égalitarisme dans l'islam, la famille patriarcale reste considérée comme la norme divine. Chacun se soumet à Dieu. Les citoyens se soumettent à l'autorité du chef de l'État. L'épouse est soumise au mari et les enfants à leurs parents. La réciprocité est encouragée entre le mari et l'épouse, et le mari s'en remet normalement à son épouse sur les sujets concernant la maison et l'éducation des enfants en bas âge. Il n'en reste pas moins vrai que si une divergence de vue surgit et qu'une décision doit être prise, c'est le mari qui a le mot de la fin. Voir la sourate 4, 34, à propos des femmes justes qui obéissent à leur mari. Les enfants sont une joie. Les enfants doivent honorer leurs parents et les parents doivent traiter chacun de leurs enfants également, sauf circonstances particulières, comme avoir un enfant handicapé. Un hadith dit « Craignez Dieu et traitez vos enfants avec la même justice ». Les parents sont tenus de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant, nourriture, habillement, hébergement, formation religieuse et éducation. Les pères doivent témoigner amour et affection à leurs enfants, car il est dit que c'est ainsi que Mohammed s'est comporté avec ses enfants. L'islam considère qu'une mère témoignera toujours de l'amour à ses enfants. Dans une affirmation célèbre, Mohammed dit « Le paradis est au pied des mères ». Dans un autre hadith, quelqu'un demande à Mohammed « Envers qui dois-je témoigner de la bonté ?» Sa réponse a été la suivante « À ta mère, puis à ta mère, puis encore à ta mère et ensuite à ton père, puis à tes parents par ordre de proximité. » La loi islamique n'autorise pas l'adoption plénière, voire sourate 33, 4, 5, selon laquelle l'enfant adopté a les mêmes droits d'héritage que les autres enfants. Un enfant qui a perdu ses parents est confié à la charge de sa famille au sens large. Un homme sans enfant peut prendre en charge un orphelin. Il peut léguer à cet enfant jusqu'à un tiers de son patrimoine, mais l'enfant n'hérite pas de la même manière qu'un enfant normal. Les enfants, une fois adultes, s'occupent de leurs vieux parents et leur témoignent du respect, selon la sourate 17-23. Ne leur dites rien de méprisant et ne les repoussez pas. Au contraire, adressez-vous à eux avec des mots respectueux. Le même respect devrait être dû à toutes les personnes âgées, comme l'a dit Mohammed. Aucune jeunesse n'honorera un vieil homme en raison de son grand âge sans que Dieu ne nomme quelqu'un pour l'honorer dans sa vieillesse. La famille au sens large est moralement responsable des dettes contractées par un membre pauvre de la famille, sans que cela soit dû à une quelconque carence de sa part ou des dettes laissées par un membre de la famille qui est décédé. Cependant, la famille élargie n'est pas responsable de ses dettes au plan légal et ne peut pas être légalement tenue de les payer.